Nous avons donc compris qu'il y a beaucoup de mémoires différentes et que la neuropsychologie comporte comme ça un aspect ludique. Et il faut voir ces tests comme une distraction et non pas comme une épreuve. Et bien sûr, c'est en analysant les résultats de ces tests qu'on peut répondre aux questions. Est-ce qu'il existe une amnésie ou une dyspnésie? C'est la même chose, un trouble de la mémoire. Et de quel type il est? Alors, il n'est pas question, bien entendu, qu'on fasse l'inventaire des troubles complets de la mémoire, mais juste donner quelques indications. Première indication, Madame Pluchon a terminé par la métamémoire. Que pensez-vous de votre mémoire? Et dans ces questionnaires, on juge la capacité du sujet à s'évaluer. Que constate-t-on? On constate effectivement que dans ce que nous appelons les oublis bénins, ou chez les sujets anxieux, ou chez les sujets déprimés, on a tendance à surévaluer les troubles de la mémoire. La plainte est importante et les résultats au test montrent une atteinte nulle ou modérée. À l'opposé, dans les maladies sévères, et notamment dans la maladie d'Alzheimer, le sujet sous-évalue ses troubles. C'est-à-dire qu'il peut reconnaître qu'il a quelques difficultés de la mémoire, mais il ne les apprécie pas avec leur exacte intensité. Une fois que cette première étape est franchie, on peut dire qu'au fond, la préoccupation essentielle, c'est de distinguer deux grands types de troubles de la mémoire, les amnésies d'évocation et les amnésies de stockage. Alors, pour les comprendre, on va utiliser une très vieille métaphore, puisque Platon l'utilisait déjà. Il comparait en effet les souvenirs à une grande volière. Saint Augustin parlait, lui, d'un pigeonnier. Et dans cette grande volière, il y a de multiples oiseaux, de toutes les couleurs. Ce sont mes souvenirs. Et je cherche un souvenir, je cherche l'oiseau bleu. Alors je mets la main dans la cage, dans la volière, pour essayer d'attraper l'oiseau bleu. J'attrape l'oiseau bleu, ça y est. Ma mémoire fonctionne bien, mon souvenir fonctionne. Et puis j'essaye, et puis je n'attrape pas l'oiseau bleu. Alors je m'en plains, que s'est-il passé, vraiment. Et puis je continue, au bout d'un moment, j'attrape l'oiseau bleu. L'oiseau bleu était là, mais il n'était pas exactement disponible au moment où je le voulais. Eh bien, ce sont les troubles les plus communs de la mémoire. C'est ceux qui s'observent invariablement avec l'âge, car notre mémoire s'alourdit. Et d'une mémoire esclave à notre service, nous avons une mémoire qui se sature un peu, qui est rebelle, qui en a assez, qui rechigne. Alors, elle ne nous donne pas tout de suite le nom propre. On rencontre une personne et puis on reste, qui sait comment elle s'appelle, on n'ose pas lui dire comment vous appelez-vous. Alors, on fait semblant de la reconnaître chaleureusement, quoi. Et puis, on serre la main vigoureusement, mais on a reconnu. Mais enfin, il faut aussi avoir une vie relationnelle de qualité. Mais tout à coup, ah ça y est, c'est un tel. Ou un individu vient à côté, un secouriste, et dit, ah ben, monsieur Dupont va bien. Ah, il s'appelle Dupont, mais oui, c'est bien lui. Nous reconnaissons, ça y est, nous avons fait le choix. Eh bien, ces amnésies, les Canadiens les appellent amnésies de repêchage. N'est-ce pas ? On ne peut pas pêcher le souvenir au moment où on veut, mais à un moment, il va revenir. Eh bien, cela, ça se rencontre dans ce que nous appelons les oublis bénins. Et c'est ces oublis qui doivent nous inciter à travailler la mémoire, à s'occuper d'elle, à avoir une certaine hygiène de vie, à ne pas rester dans son coin, à ne pas être des retraités inactifs et végétatifs, à exister, quoi, à vivre enfin. Et aussi, ces amnésies-là de repêchage, on peut les observer chez des sujets très anxieux, mais aussi dans la dépression. Et dans la dépression, c'est assez spectaculaire, puisque après, le traitement antidépresseur va améliorer l'amnésie. Et puis, ces amnésies, là, on peut les observer dans des maladies générales, chez des sujets qui ont des anémies de diverses causes, des fatigues de causes diverses. Mais ces amnésies, on peut les observer aussi dans d'autres maladies neurologiques. Et par exemple, dans la maladie de Parkinson, c'est souvent ce type d'amnésie assez marquée qu'on peut observer. La deuxième grande variété d'amnésie, c'est l'amnésie par déficit du stockage. Anne Fradé, tout à l'heure, vous a montré ce bel animal, l'hippocampe. Et quand on examine quelqu'un, c'est une grande question qu'on se pose. Est-ce que c'est une amnésie par déficit du stockage? Si c'est cela, 9 fois sur 10, c'est l'hippocampe qui est atteint. Et 9 fois sur 10, c'est la maladie d'Alzheimer. Alors, si je reprends la métaphore de Platon, je cherche l'oiseau bleu, je le cherche. Et je n'attraperai jamais l'oiseau bleu parce que l'oiseau bleu est mort au fond de la cage. Et vous voyez que c'est une différence majeure. Quand on dit qu'on a un trouble de la mémoire entre un souvenir qui est indisponible et un souvenir qui est terminé, qui est mort, il y a une différence considérable. Eh bien, c'est grâce à l'hippocampe et au circuit de Papez dont on vous a parlé, que nous pouvons avoir cette activité de consolidation des souvenirs. Et quand une maladie survient, mais ça peut être aussi une maladie courante, mais qui a heureusement de rares complications neurologiques, que très rares, l'encéphalite herpétique, nous avons des troubles de la sorte qui sont que le malade qui perd ses souvenirs ne peut plus en acquérir de nouveau à partir du début de la maladie. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Je tombe malade à un moment, et à partir de ce moment-là, je suis incapable d'apprendre, et j'oublie un fragment de mon passé. Donc, je commence ma maladie vers l'an 2000, et puis à partir de l'an 2000, et puis je vais avoir une tranche de mon passé, 95-2000, ou 90-2000, qui vont être un trou. C'est ce qu'on appelle l'amnésie rétrograde. Et c'est dans ce cas-là, effectivement, où, comme je disais tout à l'heure, on est amputé de son identité parce que la mémoire épisodique est considérablement altérée. La mémoire épisodique, comme on vous l'a dit, ce mot est la traduction anglaise, la mauvaise traduction anglaise du mot épisode qui veut dire mémoire des événements de la vie. On perd les événements de la vie. Et cela, effectivement, désigne les amnésies de stockage. Si maintenant, nous passons à la mémoire procédurale, cette mémoire inconsciente dont on vous a parlé. Effectivement, le diagnostic est plus difficile à mettre en évidence. Mais on s'aperçoit que cette mémoire procédurale, elle est inconsciente et c'est au-dessous du cerveau que ça se passe, dans des structures que nous appelons les noyaux gris centraux. Ceci veut dire que dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir des atteintes de la mémoire procédurale, alors que dans la maladie d'Alzheimer, cette mémoire est préservée. Et ceci est très important dans les réflexions sur la réhabilitation moderne. Un malade d'Alzheimer, il peut jouer du piano. Il ne peut pas apprendre un nouveau morceau, mais il peut jouer du piano. Il peut conduire assez longtemps. Après, il y a d'autres problèmes, mais les mécanismes eux-mêmes sont préservés. Il peut téléphoner, mais s'il prend malheur, on lui dit quel est le numéro de téléphone. On fait appel à sa mémoire épisodique et là, on le plonge. Qu'au contraire, quand on le laisse agir et quand on peut faire des apprentissages très limités, on les fait sans verbaliser pour que ça paraisse naturel. Et ainsi, ces malades qu'on voit trop sur leur aspect négatif peuvent être capables de petites acquisitions. Vous voyez donc, à travers ces données, qu'il y a un très vaste éventail dont on ne peut, dans ce temps limité, que tracer quelques grands traits. Et maintenant, Marie-Noëlle Besson, Fargeau, va nous dire... C'est Mademoiselle Besson, Madame Fargeau. Je ne me suis pas trompé sur la personne. Va nous dire maintenant comment une spécialiste, une psychologue, une orthophoniste peuvent aider les personnes qui ont des troubles de la mémoire, à côté des médicaments, à côté de la prise en charge, il y a place, peut-être, pour cette attitude de soutien.